à Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 7 novembre. J'ai pensé vous parler d'Origène parce que c'est un personnage extrêmement attachant. Ne fuyez pas, il est mort en 253, mais c'est un homme tellement remarquable par sa sensibilité et son esprit mystique aussi, une foi exceptionnelle. Et c'est le plus grand père de l'Église grecque, c'est-à-dire l'homme le plus attachant. C'est un spécialiste de la Bible, c'est un théologien, mais quel homme sensible et simple et vrai, et qui nous remue. On peut pas lire Origène sans être remué jusqu'au fond des entrailles. Il a écrit sur la prière, je vous lirai des beaux textes sur la prière. C'est un auteur qui devrait être lu encore aujourd'hui par la plupart des gens. Origène, au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Oui, parce qu'Origène, comme le dit le père Aman dans un très beau texte sur Origène, est un des génies les plus puissants. Les plus puissants non seulement de l'Église, mais de toute l'humanité, oui, oui. C'est pas exagéré de dire ça. Dans l'Antiquité chrétienne, on peut peut-être le comparer à saint Augustin. C'est le seul. Il est difficile de dire ce qu'il faut admirer le plus chez lui, si c'est l'étendue puis la vigueur de ses connaissances, de son savoir, ou bien l'enthousiasme, la ferveur de cet homme Origène, ses qualités religieuses aussi en tant que chrétien, son âme de feu comme apôtre et martyr, pas apôtre au sens de Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Jean, mais un apôtre, comme nous sommes tous appelés à l'être en 1996, en la fin de ce millénaire, hein? Des vrais apôtres de feu comme lui. À cause de la richesse de ses dons, puis de la grande variété de tout ce qu'il présente, il est difficile de le saisir. Il faut dire qu'il a beaucoup prêché, beaucoup écrit. C'est énorme, sa production. Il se découvre quand même, petit à petit, par palier, je dirais. Plus exactement, c'est un homme qui se livre petit à petit. Et quand on lit ses écrits, on finit par se laisser pénétrer. C'est pas possible de pas se laisser pénétrer, hein? Il nous laisse le sentiment d'être inépuisable, tellement son génie est profond. Il nous ménage continuellement de nouvelles découvertes. On le lit puis on reste stupéfait devant des découvertes extraordinaires qu'il nous fait faire. Lui qui a vécu il y a si longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs anciens sur lesquels nous sommes mieux renseignés que sur Origène. Hein? Parce que l'historien Eusèbe a bien écrit à son sujet. Eusèbe était un de ses admirateurs les plus enthousiastes. Disons tout d'abord qu'Origène est né vers l'an 185. Ben, longtemps de ça, comme vous voyez, 185. Sa famille était chrétienne, assez à l'aise. Son père, Léonidas, ou Saint Léonide, est mort martyr. Oui, son père est mort martyr alors qu'il était encore assez jeune. Origène. C'est dire qu'Origène a été élevé dans un climat de ferveur religieuse. Puis aussi, il a été élevé dans la perspective du martyr. Il va en demeurer marqué pour la vie. Tout ça se passait dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. On vous parle souvent d'Alexandrie quand on parle des anciens chrétiens. N'oubliez pas que l'Afrique du Nord était chrétienne. Cette Afrique du Nord qui est presque entièrement musulmane aujourd'hui. Il faut dire que l'islam s'est installé là dans 20 ans. Hein. Ça n'a pas été long. Vers l'an 700. Donc là, nous sommes vers l'an 200. C'est-à-dire, il est né en 185, mais on est vers l'an 200 quand son père meurt. Et à Alexandrie, Origène grandit. Et Il grandit dans cette ville où on trouve le meilleur et le pire, beaucoup de luxe, mais aussi beaucoup d'ascèse de la part des chrétiens sérieux. On trouve la volupté, mais aussi l'héroïsme. Donc Origène est baptisé dès son jeune âge, hein, il reçoit une très bonne éducation. Il surprend même son père par la vivacité de son intelligence, par les questions qu'il lui pose sur l'écriture. Et quand son père est arrêté, ben, il veut le suivre en prison. Et sa mère, savez-vous, est obligée de cacher ses vêtements pour l'empêcher, cet Origène, de se livrer au magistrat. Il veut mourir martyr avec son père. Alors, finalement, Origène écrit à son père pour l'exhorter à être constant dans la foi, à avoir du courage et de la persévérance. Et cette première lettre d'Origène est le prélude, on peut dire, à son fameux texte « Exhortation aux martyrs », qui est un des plus beaux textes de l'histoire de l'Église. C'est évidemment une de ses plus belles œuvres. Il a alors 17 ans seulement. 17 ans. Si nos jeunes de 17 ans étaient capables d'écrire des œuvres comme « Exhortation aux martyrs », ce serait extraordinaire. Hein? On les chercherait en vain aujourd'hui, mais il y en a peut-être. Qui sait? Il se cache des saints de 17 ans chez nous, même à Montréal, j'en suis sûr. Et cette ferveur, cette maturité le caractérise. Il est déjà Origène, adolescent tout entier, dans cette façon d'agir à l'égard de son père. Et après la mort, donc, de son père Léonidas, Saint Léonidas, ou Saint Léonide, ses biens sont confisqués, ce qui amène la gêne dans la famille. Sa mère est restée veuve avec 7 enfants. Et Origène est l'aîné. Il est responsable. Heureusement, une riche chrétienne d'Alexandrie. Elle vient au secours de la famille, mais comme elle subit l'influence d'un gnostique nommé Paul, Origène, qui est très attaché à la foi catholique orthodoxe, refuse son assistance. La pureté de la foi lui apparaît comme le plus précieux de tous les biens. Or, Origène, jeune, mais je l'ai déjà dévoré. Dévoré par la science et l'ascèse. C'est étrange. Un saint jeune. La ferveur de sa vie, la précocité de son savoir détermine l'évêque Démétrius à lui confier, à ce jeune homme encore imberbe, l'école catéchétique d'Alexandrie pour instruire les candidats au baptême. Il enseigne la religion quoi? Et loin de ralentir sa ferveur, Origène s'impose les pires privations. Il renonce pour un temps à la culture profane. Il vend les manuscrits d'auteurs grecs qu'il a acquis en assez grand nombre. Il mène une vie d'ascète. Il veut toujours aller plus loin dans son désir d'union à Dieu. Mais ce jeune maître, tout jeune, est entouré à l'école de jeunes égyptiennes assez séduisantes hein, qui se préparent au baptême. Or, il est tenté. Son talent, sa jeunesse, envoûtent ces jeunes femmes qui sont sensibles et enthousiastes. Alors, il est troublé lui-même par la séduction qu'il exerce sur ces jeunes femmes. Et Origène fait un geste terrible. Disons, pour être pas tout à fait précis, qu'il fait le sacrifice de sa virilité. Et oui, il va jusqu'à se trancher, ce que vous comprenez. Et une fois de plus, il choisit, admettons-le, une solution héroïque et extrême. Et il devient volontairement, dit-il, eunuque pour le royaume des cieux. C'est là un excès invraisemblable, mais il faut bien le reconnaître, qui a toujours empêché l'Église de le canoniser. Il est difficile de canoniser un saint qui a 20 ans à poser un tel geste. Origène voit son succès grandir. Les païens, les hérétiques viennent l'écouter, entendre ses leçons. Plusieurs de ses auditeurs sont déjà rompus à la philosophie, à toutes sortes de sciences profanes. Alors, pour pouvoir discuter avec eux, ben, Origène se met à suivre les cours d'un dénommé Ammonius Saccas, qui enseigne la philosophie de Platon, ou la philosophie platonicienne. Et puis, Origène se remet donc à l'étude de Platon, puis des disciples de Platon. Il s'explique là-dessus dans une lettre, ce qui laisse entendre qu'il a été critiqué pour avoir étudié les auteurs profanes, mais c'est un ascète. Il va pas tenir compte de ses petites égratignures, ses petites attaques à sa réputation. Il continue à suivre les cours. Cette école, qui était nommée Didascalie, connaît une grande renommée. Il faut dédoubler les cours. Origène confie donc à Héraclas les débutants pour se réserver les cours supérieurs. Il est jeune, mais il enseigne dans les hautes classes et plusieurs voyages, cependant, viennent interrompre son enseignement. Origène se rend à Rome, poussé par le désir de voir cette ancienne église. Il est appelé en consultation, même en Arabie. Il se fixe quelque temps en Palestine, où l'évêque lui demande des conférences bibliques à l'église. Il était inouï pour un laïc de prêcher dans ce temps-là, comme c'était le cas avant Vatican II. Les laïcs, nous, les laïcs, on prêchait pas du tout, jamais. Moi, dans mon enfance, j'ai jamais entendu un laïc prêcher. Et l'évêque d'Alexandrie, toujours en Égypte, susceptible, le fait revenir parce qu'il n'aime pas entendre dire qu'un laïc prêche là-bas, son jeune théologien qui prêche. Alors, il le rappelle, puis Origène reprend ses cours. Et vers cette époque, il semble qu'Origène connaît un ancien gnostique, Ambroise, qu'il ramène à la foi catholique orthodoxe. Alors cet homme à qui il dédie son traité sur la prière, c'est un des plus beaux textes qu'il ait écrit, c'est un traité sur la prière. Cet homme disposait d'une fortune considérable, et on peut dire que l'histoire de l'humanité, puis l'Église aussi, lui doivent plus qu'une chandelle à cet Ambroise. On devrait lui acheter tout un luminaire et allumer ça en son honneur, parce qu'il met à la disposition d'Origène une équipe de 7 tachygraphes, on appellerait ça aujourd'hui des sténographes, et qui se relaient d'heure en heure pour écrire sur la dictée d'Origène. Autant de copistes et de jeunes filles exercées à la calligraphie mettent au net la diffusion de ces ouvrages, et de cette époque datent les travaux sur le texte de la Bible, sur l'interprétation aussi de la Bible. C'est un travail colossal. Et en 230, il a 45 ans, arrive un incident fâcheux qui met fin à son enseignement à Alexandrie. En Palestine, où il est revenu, les évêques de Césarée et de Jérusalem, finalement, l'ordonnent prêtre pour lui faciliter la prédication, et c'est un tollé à Alexandrie. L'évêque de cette ville est brutal, il est jaloux. Alors, il est jaloux à l'égard d'Origène. C'est le styrien Eusèbe qui fait la remarque moqueuse que cet évêque a éprouvé des sentiments humains et non pas surnaturels. Alors, l'évêque le déclare déchu du sacerdoce. Alors, Origène s'installe de façon définitive à Césarée, au nord-ouest de Jérusalem. Alors, il va ouvrir une école. Il reprend l'enseignement qu'il ne pouvait plus donner en Égypte, puisqu'il a été banni, pour ainsi dire, par la jalousie de son évêque. Puis son ancien collaborateur, qui devient évêque à son tour, prend les mêmes mesures sévères que son prédécesseur à l'égard d'Origène. Alors Origène mène de front l'enseignement à Césarée. L'enseignement, la prédication quotidienne, oui, quotidienne, puis la composition de ses ouvrages en plus de ça. Alors il enseigne, il écrit, il prêche, chaque jour. Et durant ces années, Césarée est le foyer intellectuel le plus brillant de la chrétienté, en grande partie grâce à Origène. Et Origène a conquis la pleine maturité de son esprit dans la plénitude de sa foi. C'est sa foi qui l'anime, hein? Et son amour de Dieu. Il est le théologien universellement connu et consulté à l'époque. Oui, partout on consulte Origène dans ce temps-là. Un peu comme Balthazar a pu être admiré, Hans-Urs von Balthazar, à la fin de notre siècle, jusqu'à il y a quelques années à peine. Quelques absences viennent entrecouper son enseignement. À plusieurs reprises, il se rend en Arabie pour trancher des discussions théologiques. D'ailleurs, c'est assez étonnant, hein? En 1941, on a retrouvé à Toura, près du Caire, en Égypte, donc, un papyrus qui contenait sa discussion, la discussion d'Origène avec l'évêque Héraclide en Arabie. Et Origène a été invité comme expert à cet endroit-là, puis il interroge l'évêque. On voit ça dans le texte, là, puis il développe ensuite sa manière d'envisager les relations entre Dieu le Père et Dieu le Fils, ou Dieu le Père et Fils. Et le texte conserve le ton assez direct de la conversation. Et puis Origène montre dans la discussion un tact parfait. C'est un document intéressant qui vient d'être trouvé, il y a un peu plus de 50 ans. En 250, il a 65 ans, il y a une des plus épouvantable persécution qui se déclenche, et l'empereur Dèce qui fait ça. Dèce vise la tête. Alors, il s'attaque aux évêques, il s'attaque aux docteurs, et Origène ne peut échapper. Il est prêt. Il y pensait depuis son enfance. Oubliez pas, il avait encouragé son père au martyr, alors les années n'ont fait qu'intensifier en lui la soif du martyr, son enthousiasme qui ne pas faibli. C'est Eusèbe, son historien, là, qui a écrit sa vie, qui dit « Il endure, et je cite le texte d'Eusèbe, « Il endure chaîne, torture en son corps, torture par le fer, torture de l'empoisonnement, ou de l'emprisonnement, pardon, au fond des cachots. Pendant plusieurs jours, il eut les pieds mis au cèpe jusqu'au troisième trou et fut menacé du feu. Il supporta vaillamment tout ce que les ennemis lui ont infligé. » Alors, Origène est martyr comme son père. Il survit cependant à ses traitements barbares pendant quelque temps, mais épuisé, il meurt, vraisemblablement à Césarée. Pendant des années, on a visité son tombeau à Tyr, au sud du Liban actuel. Je vous ai dit qu'il avait beaucoup écrit. Bien, la liste des ouvrages d'Origène a été dressée par Crouzel. On peut voir là la masse des ouvrages sur l'écrivain. Le professeur, le prédicateur, c'est incroyable. Il n'y a pas question, malheureusement, de l'homme Origène en tant que tel. Pourtant, c'est l'homme, moi, qui m'intéresse. Les 2000 ouvrages d'Origène nous intéressent aussi, mais c'est toujours moi en fonction de cet homme auquel je suis très attaché. Ça n'a pas été d'abord un cerveau, Origène. C'est un être de chair et de sang. Comme dit le Père Amand, c'est un être de lumière et de feu. Origène, il prostitue pas sa pensée, il trahit pas. Hein. Il montre une réserve pleine de pudeur sur tout ce qui touche sa foi personnelle, sa vie. Il prend ses distances vis-à-vis de ça. C'est pas un séducteur, hein. Comme, disons, Saint Clément d'Alexandrie. Il n'est pas davantage orateur. Non, il ignore l'art. Jamais il n'élève la voix jusqu'à l'éloquence. Hein. Un peu comme Monseigneur Dulst hier, dont je vous ai parlé. Il parle plutôt comme en confidence. Même à l'intérieur de là où Dieu rassemble et parle dans les églises. Origène ignore en fait la magie des mots que Saint Grégoire de Nazianze maniait avec maîtrise. Saint Augustin aussi. Sa voix est comme voilée. C'est Hans-Urs von Balthasar qui a écrit d'ailleurs au sujet d'Origène la voix de l'Alexandrin. On appelle souvent Origène l'Alexandrin puisqu'il est né à Alexandrie. Donc la voix de l'Alexandrin ressemble plutôt à ces vents du désert, brûlants et secs, qui passent parfois sur le delta du Nil, emportés par une passion qui n'a rien de romantique, un souffle pur, un souffle de feu. Origène, qui dictait et n'écrivait pas, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait toute une ribambelle de sténographes, et dépouillé jusqu'à la pauvreté quand même. Ce passionné, cet être de feu, chose curieuse, s'efface, hein, il se fait oublier, il disparaît, comme s'il n'était que l'intermédiaire, l'introducteur, le chargé de faire se rencontrer les deux interlocuteurs qui, le Verbe de Dieu et l'Église ou le croyant. Jamais Origène ne pénètre par effraction dans les cœurs des croyants, non. Il lui suffit d'ouvrir les chemins, comme Jean-Baptiste, dont je vous ai parlé mardi dernier, le 5, hein, je vous ai consacré mon émission à Saint-Jean-Baptiste et à ses parents, Zacharie et Élisabeth, deux saints. Jean-Baptiste, pour lui, c'était la figure où il se retrouvait. D'ailleurs, si nous lisons les œuvres un peu d'Origène, tant soit peu, là, si on prête l'oreille, On entend battre, il me semble, le cœur de cet homme qui est tendre et pudique quand il commande l'Écriture sainte. Origène se trahit ou se découvre quand il prêche, quand il prie, quand il porte la parole comme le pain de l'Eucharistie aux affamés qui l'écoutent. Les auditeurs, d'ailleurs, le surprennent à prier. Ils remarquent ça quand ils le regardent comme il faut. Ils voient ses lèvres qui tremblent aux commissures de manière presque imperceptible. Mais ils voient bien qu'il y a là une émotion qui trompe pas. Origène sent vibrer le cœur de la tendresse de Dieu dans le corps d'humilité que sont les lettres et les volumes de l'Écriture sainte. C'est toujours le miracle de la multiplication des pains qui se renouvelle pour lui. Le mystère de l'incarnation qui se prolonge. Et chez Origène, cela provoque l'extase que cette écriture, ces textes, permettent au Christ de rentrer dans les âmes à travers les siècles. Il n'est pas question d'énumérer toutes les œuvres d'Origène. Une partie est perdue. Il y en a une autre qui subsiste qu'en traduction par fragments. Chose curieuse, hein, les sables du désert d'Égypte nous en rendent de temps en temps. Des petits lambeaux. Mais on peut parler de la Bible sextuple qu'on appelle les exaples. C'est une entreprise gigantesque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une Bible sextuple? Bien, sur 6 colonnes, Origène fournissait le texte hébreu en caractère hébraïque et grec, et les 4 versions grecques de la Bible. Imaginez le travail. Mais ça n'a jamais été reproduit. On ne l'a jamais publié. L'unique exemplaire est resté à Césarée jusqu'à l'invasion des Sarrasins au 6e siècle. Et puis Eusèbe et Saint Jérôme l'ont vu, l'ont consulté, ils en ont parlé. Il y a 2 autres ouvrages qui n'ont pas directement trait à la Bible. Il y a l'ouvrage très connu « Contre Cels », qui est à la fois une réfutation du philosophe païen Cels, puis surtout une apologie du christianisme, une grande défense du christianisme. Il y a un traité aussi des principes, qui est une œuvre de jeunesse composée pendant les années 225-230. Il y a une table au 5e tome dans la source chrétienne qui est absolument fantastique. Cet ouvrage, c'est une véritable somme théologique. C'est la première synthèse dans l'histoire de la théologie. Ça marque une date, d'ailleurs. Et c'est là qu'il enseigne l'apocatastase. Vous avez, j'en ai parlé le jour où j'ai parlé de l'enfer, c'est-à-dire la restauration universelle qui lui sera tant reprochée, d'ailleurs, dans les siècles plus tard. Il faut noter que ces thèses pour lesquelles il a été attaqué se retrouvent plus dans les ouvrages de sa maturité. Hans-Urs von Balthasar explique ça dans son livre « L'enfer, une question ». C'est 90 pages, publiées chez Desclée de Brouwer il n'y a pas si longtemps. « L'enfer, une question » chez Desclée de Brouwer. C'est un ouvrage assez théologique. Je vous en ai parlé dans mon émission sur l'enfer à la fin d'octobre. La cassette est disponible. Bon, c'est que nous parlons aujourd'hui d'Origène, le plus grand penseur du début de l'Église grecque. Et au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, je poursuis en vous parlant de l'œuvre d'Origène, qui est en plus grande partie consacrée à l'étude de la Bible. C'est composé d'homélies, de commentaires, de scolies. Les scolies, ce sont des petites notes explicatives sur les passages, les mots difficiles. Les homélies, elles ont été prêchées aux fidèles de Césarée, et de 574 sermons, il y en a 240 seulement qui nous ont été conservés. Pour ce qui est des commentaires, ce sont des études plus étendues, de caractère assez scientifique, sur les livres de la Bible. Aucun ne nous est parvenu en entier, c'est triste. Origène, il fait preuve d'une érudition quand même qui embrasse tous les domaines. Il s'intéresse à la philologie, c'est-à-dire la langue, à l'histoire, à la philosophie, à la théologie. Il s'arrête pas au sens littéral, dont il scrute mieux que personne quand même la signification. Ce qui l'intéresse, c'est d'atteindre le sens spirituel. Grâce à ce qu'on appelle la méthode allégorique, qui a déjà été utilisé par Saint Clément d'Alexandrie. Pour ce qui est de sa correspondance, il ne nous reste que 2 lettres. Il faut agiter les 2 merveilleux petits livres déjà mentionnés, l'exhortation aux martyrs, puis le traité sur la prière. C'est ce qu'il faut lire, surtout d'Origène. Si les gens ont le courage d'aborder des beaux ouvrages publiés, qui est écrit il y a 1800 ans, 1800 ans, bien, l'exhortation au martyr et le traité sur la prière d'Origène. Cette œuvre peut être caractérisée de diverses façons, mais ce qu'on peut dire, c'est une des plus prodigieuses qu'un être humain ait produite. Beaucoup de spécialistes qui faut d'en atteindre vraiment le centre, puis d'en saisir tout ce qu'il y a d'intime et de valable dans l'œuvre d'Origène, ont déformé ce qu'il a écrit. D'autres l'ont accusé la pensée d'Origène à cause de son idée, dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, là, du salut complet de toute l'humanité après la fin des temps. Le moindre petit spécialiste anti-Origène s'est toujours fait le plaisir de l'attaquer, sans rien comprendre. Pourtant, l'œuvre d'Origène a pris ses racines dans la Bible. La parole de Dieu, c'est le centre de sa pensée, de son inspiration, de sa vie. Tout est là. Origène perçoit, sans l'aide d'aucune philosophie, puis avec une acuité qu'il est peut-être le seul à posséder à ce point, que la Bible, c'est pas un document. D'après lui, c'est une présence. Origène cherche, avec l'amour de l'épouse du Cantique des Cantiques, on pourrait dire, cette présence qui se cache et qu'il faut coûte que coûte découvrir dans les pages de la Bible. Et pour Origène, la très sainte Écriture est vraiment le sacrement de la présence de Dieu au monde. Il en connaît mieux que personne l'enveloppe, le sens littéral, quoi. Personne dans l'Antiquité n'avait sa formation, et qui nous étonne encore quand il s'agit d'étudier la Bible. Mais ce qui lui importe à Origène, c'est pas de s'attacher aux vêtements, mais de rencontrer la parole incarnée qui est Jésus. Cette recherche-là motive et explique ce que je vous ai dit tout à l'heure, la méthode allégorique. Et pour porter tous ses fruits, cette méthode allégorique doit considérer la Sainte Écriture dans ses liens avec le mystère de l'incarnation. Et le texte respire, comme disait Paul Claudel, de la même présence que l'histoire de l'humanité. Il parle d'un bout à l'autre du Verbe incarné. Et c'est vrai, hein? Dès le début, dans la Genèse, on annonce le Verbe incarné. Sa pénétration à Origène exige plus que l'étude, ou la foi, ou même la fréquentation puis l'intimité de Jésus, dit-il. Ce qui paraît le plus nécessaire à Origène, c'est la prière. Il écrit à Grégoire le Thaumaturge des paroles magnifiques. « En t'appliquant à la lecture divine, cherche soigneusement et avec esprit de foi, ce qui échappe à beaucoup, l'esprit des divines écritures. Oh, ne te contente pas de frapper et de chercher. Ce qui est le plus important pour obtenir l'intelligence des lettres divines, c'est la prière. » Pour ce qui est de la prédication, selon Origène, comme la lecture d'ailleurs de l'Écriture, ça doit être une prière, au sens de recherche de la présence, pour le prédicateur comme pour la communauté. La prédication et la lecture de la Bible, selon Origène, exigent une disponibilité à l'endroit de la parole vivante, c'est-à-dire de Dieu, quoi. Faut donc que nos prédicateurs se mettent en présence de Dieu avant de nous parler, de laisser sortir de leur bouche le Christ vivant. D'ailleurs, la prière parsème les homélies d'Origène, ses commentaires. C'est vrai, hein? Souvent, il écrit tout court, puis il se met à prier. Et cette prière s'adresse habituellement au Christ, qu'elle invoque comme le roi, l'ami, l'époux. Cette prière atteste une dévotion à la fois virile et discrète, tendre et passionnée. Ce sont des effusions mystiques qui se situent pas à la frange de son commentaire. Mais c'est le centre de son intelligence biblique, c'est le centre de sa façon de comprendre la Bible. Pour Origène, c'est l'aveu d'une intuition, d'une rencontre. Il rencontre Dieu. La parole de Dieu se révèle aux hommes par sa descente jusqu'à nous et jusqu'au dépouillement, la kénose de la croix. La foi découvre dans l'Écriture qui? Le Christ crucifié, dont le cœur, transpercé sur la croix, dévoile au monde l'infinie tendresse qui lui donne naissance, qui lui donne toute sa consistance. Et ce mystère du Christ crucifié, Jésus, rythme désormais la marche d'Origène à travers le désert. Tout ça inspire à Origène la cesse, qui le crucifie lui-même. La présence de Dieu, autrefois attachée au temple matériel de Jérusalem, habite, à partir de l'incarnation, dans l'humanité de Jésus, dans l'Église. La prédication a pour Origène une valeur vitale. Pourquoi? Parce qu'elle est la venue, la manifestation actuelle du Christ à la communauté assemblée à son nom. Je le rappelle, c'est le Christ qui sort de la bouche de celui qui prêche. Moi, c'est ce que je pense. Raison de plus pour le prédicateur, à mon sens, d'être vibrant, authentique, humble, et de ne pas trahir celui qui sort de sa bouche. C'est là la clé de la pensée d'Origène. Origène n'a pas écrit de traités sur l'Église. Les idées et qui lui sont les plus chères et qui constituent l'architecture de sa pensée ne sont jamais exposées, comme on dit, ex professo, mais elles se trouvent, comme l'âme de sa pensée, diffuses un peu partout. Il faut s'en laisser pénétrer quand on le lit pour les percevoir puis les savourer. En l'Église, dit Origène, est le corps du Christ. Et c'est beau quand il dit « toucher l'Église », c'est toucher la chair du Christ. Je répète, c'est tellement beau. Toucher l'Église, c'est toucher la chair du Christ. Origène compare le baptême, d'ailleurs, qui agrège au corps du Christ, au contact direct de l'humanité du Christ. C'est que le baptisé non seulement devient membre du corps mystique du Christ, mais il entre en contact direct, selon Origène, avec l'humanité du Christ. Et cette équivalence n'est plus qu'une conviction pour lui. Elle est un principe de vie. Elle est son milieu vital. Et ici, le lecteur perspicace découvre le secret d'Origène, qui fait battre son cœur. Et c'est pourquoi Origène déclare « Je voudrais être un fils de l'Église », ne pas être connu comme le fondateur d'une quelconque hérésie, mais porter le nom du Christ. Je voudrais porter ce nom, qui est en bénédiction sur notre terre. Ah, c'est là mon désir. Que mon esprit, comme mes œuvres, me donne le droit d'être appelé chrétien. Il dit aussi, « Si moi qui suis aux yeux des autres ta main droite, moi qui porte le nom de prêtre, et qui ai pour mission d'annoncer la parole, ah, je venais à commettre quelque faute contre l'enseignement de l'Église ou contre la règle de l'Évangile, et à devenir ainsi un scandale pour l'Église, oh, alors que l'Église tout entière, par une décision unanime, me retranche, moi, sa droite, et me jette loin d'elle. » En parlant de l'Église, ce mystique est d'un réalisme, d'une dureté de langage qui surprend et pourrait scandaliser les faibles. Cette dureté vient de la flamme qu'il brûle. Il compare l'Église à Rahab, à Marie, la pécheresse. L'Église n'est sainte que parce que sans cesse elle lave son péché dans le sang de la croix, donc dans l'âme de Jésus-Christ. Cette doctrine de l'Église, ce n'est rien d'ésotérique, elle a toujours une dimension universelle, cosmique, il y va de la création entière. Il dit que le Verbe est l'âme du monde, son action s'exerce à tous les échelons de l'univers. Ça rejoint Teilhard de Chardin. Entre toutes les sphères de la création, la rédemption rétablit les liens et les anges sont solidaires des hommes. Il participe à la prière de l'Église et avec une exceptionnelle conscience cosmique-origène prie pour la transformation universelle de tout le cosmos, pour que la Terre elle-même devienne ciel dans le rassemblement et la transfiguration universelle. Tout fidèle, en sa qualité de membre, participe dans l'Église au mystère de quoi? De la présence de Dieu et du Christ dans l'Écriture et dans l'Église. Oui, nous participons à ce mystère de cette présence fantastique. Et l'homme, la femme, nous sommes marqués dès notre création à l'effigie divine. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout ce qui est doué de raison, dit-il, les hommes, les femmes, participent à cette lumière. L'âme est le lieu du choix. Et comme l'Église, ben l'homme est pécheur et saint, écartelé entre la chute et le retour, la réconciliation. Alors la marche de l'homme vers Dieu, son extase, est en même temps une marche vers le centre de son être. Oui, on marche au centre, vers le centre de notre être, où est Dieu, au plus intime de nous-mêmes. Et la foi lui reflète l'image de celui qu'on appelle le Logos, le Fils éternel de Dieu, le Verbe. Ça lui permet de contempler qui? Le Christ. Ça lui permet de découvrir en Jésus le paradis où Dieu se promène. Et c'est ainsi qu'Origène écrit, « Ainsi donc, chaque juste qui imite autant qu'il le peut le Sauveur présente une statue à l'image du Créateur. Il la réalise en contemplant Dieu d'un cœur pur, en devenant une réplique de Dieu. Et ainsi l'Esprit du Christ habite, si je puis ainsi dire, dans ces images. » Et oui, Dieu nous habite, Jésus nous habite. C'est très beau ces textes d'Origène, il faudrait que nous lisions tout ça. Je vais vous en lire tout à l'heure quelques-uns. Voici une belle prière d'Origène. Puisse le Seigneur Jésus mettre à nous aussi ses mains sur les yeux, comme Joseph posera ses mains sur les yeux de Jacob. Pour que nous commencions à voir non point les choses que l'on voit, mais celles qui ne se voient pas. Que le Seigneur Jésus nous ouvre les yeux, non pour qu'il s'arrête aux choses présentes, mais aux biens à venir. Qu'il nous dévoile le regard du cœur qui contemple Dieu en esprit, par le même Seigneur Jésus-Christ, à qui sont la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Mais il y a plus que la présence chez Origène, il y a union mystique, pour laquelle Origène reprend les images de lumière, de voix, de parfum, celle de la nourriture qui nous transforme en Dieu, dit-il. Enfin, il prend l'image du mariage, l'union personnelle qui se réalise dans l'extase. Et cette union fait apparaître le caractère, je dirais, avec le père Amann, oblationnel de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne si ce n'est pas une grande offrande à l'amour de Dieu, notre Père, en union avec Jésus qui s'offre éternellement dans l'unité de l'Esprit-Saint? L'assimilation au Christ, selon Origène, s'effectue progressivement dans le feu qui est pur et qui purifie la victime, le corps du Christ. Le feu de la foi, le feu de l'amour, le feu de la conviction, le feu du dépouillement. Et cette offrande intérieure, ce dépouillement de tout l'être qui en devient la richesse, mais ça va trouver, dit Origène, son achèvement au ciel, quand parvenu à sa pleine stature, le corps tout entier, rassemblé jointure après jointure, chantera un hymne et rendra grâce à Dieu. Et alors, la création entière sera devenue louange et action de grâce. Et Origène déclare en terminant, et c'est là toute la théologie. C'est vrai que c'est là toute la théologie. Quand on lit Origène, la fascination d'une présence s'impose, qui nous pénètre. Insensiblement, c'est irrésistible. Tous ceux qui l'ont fréquenté ont été marqués par cet homme d'acier, comme on l'a surnommé. Les Cappadociens, les premiers, ont recueilli son héritage. Saint Hilaire s'en pénètre, saint Ambroise le copie. Saint Augustin en dépend et saint Jérôme lui-même l'a exploité, avant finalement de le pourfendre, de façon un peu ridicule à mon avis. Les siècles qui suivent peuvent bien lui intenter un procès au sujet de petites choses. Mais tout le monde vit des dépouilles de sa pensée. Il serait difficile de surestimer un homme qui, selon la remarque même d'Hans-Urs von Balthasar, 200 ans après le Christ, 200 ans avant Saint-Augustin, a donné sa stature à la théologie chrétienne. Oui, c'est Balthasar qui dit ça. Origène a donné sa stature à la théologie chrétienne. Voici une autre belle prière d'Origène. Que le Seigneur nous accorde de croire avec le cœur, de professer avec la bouche, de manifester par nos œuvres que l'alliance de Dieu est dans notre chair, afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui appartient la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Et voici de brefs extraits de son traité sur la prière. « Je pense, dit Origène, je pense que celui qui prie comme il faut et selon ses moyens retire de multiples avantages de la prière. » Je vous rappelle, tout ça est écrit, mon Dieu, vers l'an 240. Je pense que celui qui prie comme il faut et selon ses moyens retire de multiples avantages de la prière. Et d'abord, il est de la plus grande utilité de disposer son esprit à la prière. Par cette préparation, le fidèle se met en présence de Dieu. Il se dispose à lui parler, comme à quelqu'un qui le voit et qui est présent. S'il est vrai que certaines images, certains souvenirs du passé demeurent présents à notre esprit au point de troubler nos raisonnements, à plus forte raison faut-il reconnaître les effets bienfaisants de la pensée du Dieu présent quand le fidèle prend conscience de ce regard qui pénètre le plus secret du cœur et que l'âme cherche à plaire à ce témoin divin qui scrute tout esprit, qui sonde les reins et les cœurs. Admettons même que celui qui dispose ainsi son âme à la prière n'en tire pas d'autre avantage. Il ne faudrait pas sous-estimer le bénéfice spirituel de cet effort. S'il en prend l'habitude, combien il évite de pécher, combien il progresse dans la vertu, ceux-là le savent d'expérience qui se vouent avec persévérance à la prière. Si déjà la mémoire et la pensée d'un homme illustre et sage suffisent à susciter l'émulation en nous et à freiner notre penchant au mal, combien plus le souvenir dans la prière de Dieu, le Père de l'univers, soutient-il ceux qui se rendent compte qu'il est présent, qu'il lui parle, que Dieu les voit et les entend. C'est magnifique. Magnifique. On n'écrit pas mieux aujourd'hui. Je prends un autre petit texte de lui que j'ai beaucoup aimé. Méditons cette parole. Demandez les grandes choses et les petites vous seront données. De surcroît, demandez les biens du ciel et ceux de la terre vous seront accordés en su. Toutes les images et toutes les figures comparées à la réalité des biens véritables et spirituels sont faibles et terre à terre. Et Origène continue en disant, « Or le Verbe de Dieu qui nous exhorte à imiter la prière des saints, afin que nous demandions dans sa réalité ce qu'ils obtenaient en figure, nous rappelle que les biens célestes et d'importance sont signifiés par des valeurs terrestres et modestes. Comme s'il disait, « Vous voulez être spirituel ?» Demandez dans vos prières les biens du ciel et de conséquence, et les ayant reçus, vous hériterez du royaume des cieux. Devenu grand, vous jouirez de biens plus grands. Pour ce qui est des biens de la terre et quotidiens dont vous avez besoin pour vos nécessités corporelles, le Père vous les donne par surcroît, dans la mesure du nécessaire. Et c'est ainsi pendant des pages et des pages. C'est d'une grande beauté, d'une très grande beauté. Et à la messe aujourd'hui, C'est saint Paul qui parle aux Philippiens, et ça nous fait penser à Origène. Frère et sœur, j'ajouterai, le peuple de Dieu, celui de la vraie circoncision, c'est nous. Nous qui adorons Dieu selon son esprit, nous qui mettons notre orgueil dans le Christ Jésus, et qui ne plaçons pas notre confiance dans les valeurs charnelles. Et un peu plus loin, saint Paul ajoute, tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Bien plus, je considère tout comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ. On pourrait prier sur des textes des antiennes de la communion, comme une biche languit après l'eau vive. Oh, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et je crois qu'Origène a vécu ça.